Capital Alphard recule de 6,70$ à 374,10$. Je vous rappelle que le CAC 40 est en forte baisse d'un 92% à 3583 points. C'est Antoine Verlin, la Bourse de Paris pour France Inter.
La Bourse en temps réel, tous les cours, les indices et les marchés sur votre Minitel 3615 France Inter, rubrique Bourse, 35 centimes d'euros la minute ou sur votre téléphone au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute.
Vous écoutez France Inter, il est 14h03, c'est l'heure de retrouver Patrice Gélinet pour 2000 ans d'histoire, bonjour.
Bonjour Claire et bonjour à tous, aujourd'hui la démocratie.
La démocratie est le pire des gouvernements, à l'exception de tous les autres. Winston Churchill.
D'histoire. Inventée par les Grecs il y a 25 siècles, la démocratie s'est aujourd'hui imposée dans presque tous les pays du monde. Au point qu'après la chute du mur de Berlin, certains ont vu dans le triomphe des démocraties le signe d'une fin heureuse de l'histoire. C'était aller un peu vite en besogne, en oubliant qu'aujourd'hui encore, pour certains États qui s'en réclament, la démocratie n'est qu'un mot. Un des régimes les plus dictatoriaux du monde ne s'appelle-t-il pas la République populaire démocratique de Corée? On voit que depuis le siècle de Périclès, la démocratie reste un combat de tous les jours, un système toujours menacé, moins par le retour de la monarchie que par l'indifférence ou le dépit qui, il y a 2 ans, ont montré la vulnérabilité et les limites de la démocratie. C'était le 21 avril 2002.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Avec Claire Chazal, nous avons le plaisir de vous retrouver pour le premier de nos grands rendez-vous avant la soirée électorale qui commencera à 19h40. Nous sommes d'ailleurs en mesure de vous annoncer d'ores et déjà que nous nous dirigeons vers une énorme surprise.
Dans quelques secondes, il est 20h, voici notre estimation.
De notre point de vue, pas de problème, ce seront Jacques Chirac, 19,8% des voix et Jean-Marie Le Pen.
17,4%. Jean-Michel Ducamp, bonjour.
Bonjour.
Alors, on n'en finit pas depuis 2 ans d'analyser les résultats du premier tour de l'élection présidentielle de 2002. Vous-même, dans un petit livre très concis sur la démocratie, vous y voyez au fond le signe d'une espèce de doute sur les valeurs démocratiques. Et pourtant, à cette époque-là, et aujourd'hui encore d'ailleurs, plus personne en France, aucun parti politique, ne remet en cause explicitement la démocratie.
Oui, parce que la démocratie fait partie des fausses évidences. C'est que tout le monde se dit démocrate comme tout le monde se dit républicain. Il y a une sorte d'inflation verbale. Il serait indécent d'avoir une attitude ou une affirmation non démocratique, même si par ailleurs les programmes affichés sont des programmes non démocratiques. Et justement, le 21 avril est intéressant parce qu'il est démonstratif du fait que la démocratie peut produire des choix non démocratiques dès lors qu'elle est une compétition ouverte. Et qu'elle peut se résumer à une logique procédurale. La démocratie, c'est une façon particulière de sélectionner des élites. Et s'il y manque un arrière-plan idéologique ou, me semble-t-il, une certaine vertu démocratique ou républicaine, il est fréquent que la démocratie puisse déraper.
Alors vous rappelez justement dans ce petit livre, au fond, tous les dangers qui menacent encore la démocratie, qui est un système donc fragile, alors qu'il est très ancien. Hein, tout le monde le sait, elle est née en Grèce il y a 2500 ans. C'est d'ailleurs même du grec que vient le mot. Hein, démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Démos, pas tout le peuple, hein, parce que démos, ça veut dire simplement le peuple des hommes libres.
Oui, le peuple des hommes libres. Les Grecs avaient l'immense avantage de définir le peuple par 3 mots. Démos, le peuple des hommes libres. Laos, le peuple indéterminé, de là vient laïcité d'ailleurs. Et enfin, l'ethnos, le peuple dans ses caractéristiques ethniques. Et la démocratie, c'est 10% à peu près de la masse totale des individus vivant dans un lieu déterminé. Donc c'est une vision un petit peu réductrice.
Oui, parce qu'on exclut ce qu'on appelait les métèques, c'est-à-dire les étrangers. On exclut les esclaves aussi, les femmes également.
Oui.
Et alors tout ça, qui s'exprimait bien sûr sur l'agora, qui était... Alors cela dit, c'est un système qui peut fonctionner en Grèce, parce que... Enfin, en Grèce, pas dans toute la Grèce, justement. Hein, parce que vous rappelez qu'il s'agissait seulement d'Athènes. C'est un système nouveau, mais seulement Athènes. Toutes les autres cités de l'époque étaient soit des monarchies, soit même parfois des tyrannies.
Oui, ou des oligarchies. Il y avait, enfin, le système démocratique, d'ailleurs, est un système étonnant lorsqu'on l'étudie. Je n'entrerai pas en détail de l'histoire de la démocratie athénienne, mais il faut savoir que le choix démocratique fait en moins 507 est un choix au départ aristocratique. Ce qui d'ailleurs déjà induit certaines des critiques ultérieures. C'est un clan aristocratique qui a utilisé le peuple pour essayer de démonter un système politique antérieur. Donc, le peuple a été plus utilisé lorsque la démocratie s'est imposée qu'il n'a été l'acteur du bouleversement démocratique à Athènes.
Alors ce choix aboutit donc à l'apparition de la démocratie, a permis à tous les citoyens libres d'exprimer leur point de vue sur l'agora et de participer ainsi à la vie politique de la cité. La revue de texte, Stéphanie Denka.
Oui, donc au 5e siècle avant notre ère, les Athéniens inventent la démocratie, un régime dont, vous l'avez dit, les femmes, les esclaves et les métèques ne font pas partie, ils ne sont pas citoyens. Il n'empêche, quand on lit les L'éloge de la démocratie, écrit par l'historien grec Thucydide et attribué à Périclès, hein, le premier des Athéniens, c'est d'ailleurs à cette époque que la démocratie athénienne est à son apogée, eh bien on voit que les Grecs du 5e siècle ont toujours des choses à nous dire. D'abord, Périclès est fier de sa démocratie. Notre régime politique, dit-il, ne se propose pas pour modèle les lois d'autrui et nous sommes nous-mêmes des exemples plutôt que des imitateurs. Pour le nom de ce régime, poursuit-il, comme les choses dépendent non pas du petit nombre, mais de la majorité, c'est une démocratie. La loi fait à tous, pour leurs différents privés, la part égale, tandis que pour les titres, ce n'est pas l'appartenance à une catégorie, mais le mérite qui vous fait accéder aux honneurs. Hein, une idée fondamentale pour la démocratie, l'égalité des chances par le mérite. La distinction, en effet, n'est pas fondée sur la richesse. La pauvreté, affirme Périclès, n'a pas pour effet qu'un homme, pourtant capable de rendre service à l'État, en soit empêché par l'obscurité de sa situation. Chez nous, dit-il, il n'est pas honteux d'avouer sa pauvreté. Les simples artisans peuvent entendre suffisamment les questions de politique. En d'autre part, pour Périclès, la démocratie, c'est aussi une civilité, un certain art de vivre ensemble. Nous savons concilier le goût du beau avec la simplicité et le goût des études avec l'énergie. Mais aussi, explique Périclès, la liberté ne suffit pas, il faut des lois et des magistrats chargés de leur application. Dans le domaine public, dit-il, la crainte nous retient avant tout de ne rien faire d'illégal, car nous prêtons attention aux magistrats qui se succèdent et aux lois, surtout à celles qui fournissent un appui aux victimes de l'injustice. La démocratie, Périclès le sait bien, c'est aussi la parole, la discussion entre les citoyens sur l'agora d'Athènes. Pour nous, dit-il, la parole n'est pas nuisible à l'action. Ce qu'il est, c'est de ne pas se renseigner par la parole avant de se lancer dans l'action. Mais déjà, Athènes, la démocratie a ses détracteurs, les oligarques bien sûr, mais aussi des philosophes comme Platon qui nie au petit peuple la capacité de faire de la politique, hein, une critique qui va durer. Je vois, dit Platon, dans nos assemblées, s'il s'agit de délibérer sur une construction, on fait venir les architectes pour prendre leur avis. S'il s'agit de construire des vaisseaux, on fait venir les constructeurs de navires. Mais, remarque Platon, si au contraire il faut délibérer sur le gouvernement de la cité, chacun se lève pour donner son avis. Charpentier, forgeron, cordonnier, marchand, armateur, riche ou pauvre, noble ou roturier, indifféremment. Pour Platon, l'idéal politique serait de confier le pouvoir aux philosophes, ceux qui connaissent la vérité.
Et oui, dès le début, Jean-Michel Ducombe, dès sa naissance à Athènes, la démocratie était critiquée, et pas par n'importe qui. Platon, il y a eu aussi Aristote, vous le rappelez, qui les critiquait.
Oui, les critiques d'ailleurs sont à peu près toujours les mêmes. Celle de Platon est la plus vigoureuse, puisqu'il dit la démocratie est le pire des régimes, et là il n'y a pas la remarque ultime de Churchill, c'est le pire des régimes, dans la mesure où ce serait la populace conduite par des démagogues. Ça explique d'ailleurs, lorsqu'on relit les discours ou dialogues de Platon, la hargne qu'il articule contre les sophistes, parce que pour lui, les sophistes sont ceux qui, par leurs discours, vont entraîner la populace. Et c'est une idée qui va rester très longtemps, et même encore aujourd'hui, lorsqu'on lit le discours antidémocratique ou le discours antirépublicain, la grande tradition antiparlementaire est construite autour à peu près des idées qui étaient celles de Platon. Il faut que ce soit les meilleurs qui gouvernent, donc ceux qui savent.
Alors dans votre livre, j'ignorais totalement Jean-Michel Dukonte, et je l'ai appris dans votre livre, que la démocratie c'est très ancien, mais en fait elle n'a duré à Athènes qu'un seul siècle, à l'époque d'Aristote, déjà au IVe siècle, elle avait disparu. Est-ce qu'on ne peut pas dire par exemple qu'après la Grèce, Rome n'est pas un système, la République romaine en tout cas, n'est pas un système démocratique? Après tout, le peuple peut s'exprimer au forum, qui est au fond un peu l'équivalent de l'agora des Grecs.
Oui, mais avec une petite réserve. Personne ne parle jamais de démocratie romaine, tout le monde parle de république romaine. La démocratie a une place, mais dans une dimension finalement très moderne, qui serait une sorte de démocratie protestataire, notamment avec les tribuns de la plèbe, qui sont là présents pour essayer de servir en quelque sorte d'élément de contrepoids par rapport au pouvoir du Sénat. Et d'ailleurs, sur les plaques et sur les briques qui édifient les constructions romaines, vous avez toujours le peuple et le Sénat de Rome. Façon de dire que le peuple a un rôle à jouer, mais plus comme contre-pouvoir.
C'est le Sénat qui décide, voilà.
C'est quand même le Sénat qui décide.
Alors justement, ensuite, ce sera l'Empire, donc ce sera la monarchie, une monarchie qui a duré 20 siècles, avec pour principe que le pouvoir ne vient plus du peuple, mais il vient d'en haut, il vient de Dieu, hein, ce sera le cas notamment de la monarchie française, qui disparaît donc bien plus tard, au XVIIIe siècle, avec la chute de la monarchie, le 21 septembre 1792.
Messieurs, en ce jour mémorable où la Convention nationale, élue par tous les Français, se réunit pour la première fois, je mets aux voix la proposition du citoyen Collot d'Herbois. Proclamer à la face du monde que la monarchie est abolie en France. La motion est adoptée.
Un soir disait qu'on dansait à plus d'un confrère. J'ai dans la tête un projet qui pourra vous plaire. Il nous faut, mes chers amis, établir en ce pays une république d'une forme unique. Dont on voulait de Louis porter la couronne, mais bientôt à mes avis, dont on s'abandonne. Car ils pensent comme moi que rien ne vaut mieux, ma foi, qu'une république bien démocratique. Sans craindre d'un important les discours infâmes, nous mettrons tout en commun jusque à nos femmes. Si nous agissons ainsi, c'est pour mieux saisir l'esprit d'une république bien démocratique.
France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui la démocratie.
Et c'était Chantal Grimm, Le Grand Projet, une chanson de 1791, date à laquelle la démocratie réapparaît après 20 siècles de ce que vous appelez, Jean-Michel Dukonte, un grand silence démocratique. Elle ne réapparaît pas qu'en France, vous évoquez bien sûr les États-Unis d'Amérique.
Oui, elle réapparaît d'ailleurs peut-être plus clairement aux États-Unis qu'elle ne se développe en France. Aux États-Unis, il y a incontestablement un choix démocratique qui coïncide avec l'indépendance des colonies anglaises sur le territoire américain. En France, c'est davantage une logique républicaine qu'une logique démocratique. C'est quand même le temps du citoyen propriétaire. Et pour beaucoup, pendant la Révolution, l'important sur le terrain de ce que nous pourrions appeler la démocratie, c'est l'autonomie par rapport au pouvoir. C'est la liberté-autonomie beaucoup plus que la liberté-participation. C'est plus tard que on considérera qu'il faut par ailleurs que les citoyens puissent décider de la forme politique qui les régit.
On le décide quand même dès, avant même d'ailleurs l'abolition de la monarchie, dès 1789, hein, l'article 3 de la Déclaration des droits de l'homme qui dit « La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. »
Oui, bien sûr. Mais sous les réserves de la procédure de participation.
Alors c'est Rousseau hein, qui est à l'origine de tout ça, avant même la Révolution, Jean-Michel Dukonte. Et Rousseau qui était quand même sceptique, hein, il disait, en parlant de la démocratie, un tel gouvernement si parfait ne convient pas aux hommes, mais à un peuple de Dieu.
On retrouve un petit peu les présupposés de la démocratie antique, la démocratie athénienne. Je pense que dans l'esprit de Rousseau, la démocratie est une démocratie, alors pour utiliser un terme à la mode et me semble-t-il qui convient assez mal à la pratique démocratique, c'est pour lui une démocratie dans la proximité plus que de proximité. Il faut que ceux qui décident soient en situation d'être ceux à qui on applique ce qui va être décidé. Ce qui réduit l'espace géographique de la démocratie à quelques kilomètres carrés. Par ailleurs, je pense que dans l'esprit de Rousseau, comme dans l'esprit de la plupart des encyclopédistes ou des hommes des Lumières, il y a l'idée que pour que la démocratie fonctionne, il faut quand même qu'il y ait une éducation. Il faut que les citoyens aient une formation, ce que dira plus tard Condorcet, afin de pouvoir pratiquer correctement l'exercice du vote.
Oui, ça vous insistez beaucoup dessus. Je rappelle que vous êtes président de la Ligue de l'enseignement, hein, qui est une vieille ligue qui date du 19e siècle. Au 19e siècle, justement, l'enseignement était totalement inséparable, au fond, du bon fonctionnement de la démocratie.
Ça reste, je pense, vrai aujourd'hui. Et on se rend compte qu'il y a une sorte de convergence entre l'obscurantisme fréquemment et l'absence de démocratie. C'est que les régimes autoritaires ou obscurantistes sont des régimes qui, par ailleurs, sont des régimes qui dénient toute capacité aux citoyens d'être éduqués.
Alors ça, on peut le dire pendant assez longtemps, parce que vous le rappeliez à l'instant, Jean-Michel Ducomte, au début, c'est une démocratie qui ne donne le droit de choisir qu'aux propriétaires, puisque le moyen de s'exprimer pour les citoyens, c'est d'abord le droit de vote. Or, le droit de vote, le suffrage universel, n'apparaît qu'en 1848 en France, il n'a pas été pratiquement appliqué pendant jusque-là, mais il a fallu attendre encore un siècle avant que la moitié des citoyens puissent voter, c'est-à-dire les femmes, en 1944.
Les femmes sont aujourd'hui dans tous les métiers, même les plus durs. Deux guerres à 25 ans d'intervalle ont amené cette transformation. Où les hommes furent absents, les femmes ont dû prendre leur place. À ce nouveau rôle correspondent de nouveaux droits. Parce qu'il a pensé à toutes celles-là, les femmes qui travaillent, que ce soit à l'usine ou au champ, le gouvernement a déjà assuré aux femmes de France le droit de vote qui leur permettra de faire entendre leur voix. Au cœur de la République qui va naître, elles auront la place qui est la leur comme citoyennes, comme travailleuses.
Et c'était le droit des votes des femmes, décidé en France en 1944 et qui entrera en vigueur en 1945, à l'issue d'un combat pour l'élargissement du droit de vote, qui continue de se poursuivre d'ailleurs. Hein. Vous rappelez qu'en 1974, on est allé un peu plus loin en descendant la majorité politique électorale de 21 à 18 ans. Et aujourd'hui, par exemple, il est question du droit de vote des étrangers aussi. Jean-Michel Ducomte, est-ce que c'est pas aller très loin dans l'idée que l'on se faisait au fond du citoyen qui appartient à un État-nation là? On déborde largement.
C'est un vrai débat. Il y a aujourd'hui, admis par la majorité des penseurs politiques et des acteurs politiques, il y a aujourd'hui l'idée d'une sorte de lien indéfectible entre nationalité et citoyenneté. Je ne suis pas certain que ce lien ne soit pas en train de se défaire. On admet que l'État-nation est une catégorie qui, pour des raisons diverses et variées, mondialisation, construction européenne, est une catégorie qui se démonte, et qui serait cependant sauvegardé simplement comme élément d'attribution de la citoyenneté. À titre personnel, je pense que le débat mérite d'être engagé, ne serait-ce que parce que souvent des résidents étrangers sont par ailleurs des contribuables. Et lorsqu'on relit la déclaration de 89, au-delà de la participation politique, il y a aussi la contribution financière. Donc il serait quand même paradoxal que quelqu'un qui réside dans un lieu déterminé soit amené à contribuer financièrement sans avoir une capacité à dire ce que sont les dépenses qu'il faut engager.
Au moins pour des élections locales, parce qu'on parle toujours d'élections nationales, hein, mais le droit de vote, il peut s'exprimer aussi à l'échelon local, vous le rappelez, on vient de le voir en ce qui concerne les régionales. Il peut aussi se faire sur, dans des formes plus grandes, comme par exemple l'Europe. Mais alors vous parlez aussi de démocratie en dehors même du champ politique. Vous parlez par exemple de démocratie dans l'entreprise, Jean-Michel Ducomte.
Oui, c'est une vieille idée selon laquelle ceux qui travaillent au sein d'un espace économique comme l'entreprise doivent avoir la capacité de s'exprimer sur certains types de choix. Et des textes, notamment les lois Auroux, qui ont été adoptées en 1982, introduisent, c'est d'ailleurs un de leurs objets, une forme de démocratie au sein de l'entreprise. Je pense d'ailleurs que l'entreprise n'est pas le seul lieu où la démocratie doit vivre. Il y a, me semble-t-il, l'ensemble des structures de construction de la société civile qui, dans une démocratie, devraient fonctionner démocratiquement. C'est le cas des partis politiques, des syndicats, des associations, et donc, par ailleurs, des entreprises, acteurs économiques principaux.
Alors, vous évoquez aussi tous les dangers qui la menacent encore aujourd'hui, même si aujourd'hui tous les États du monde s'en sont accommodés, même les monarchies d'ailleurs, hein. On le voit en Espagne ou en Angleterre, qui sont des démocraties et qui sont en même temps des monarchies. Et parmi les risques que court la démocratie, il y a notamment le pouvoir de l'argent, vous le rappelez longuement dans votre livre.
Oui, c'est un des grands débats qui a eu lieu au XIXe siècle, qui s'est poursuivi au-delà, c'est la question sociale. Peut-on avoir une démocratie qui ne serait que formelle? Peut-on avoir une démocratie qui, par ailleurs, ne se préoccupe pas d'une égalisation des chances? Le débat n'est pas clos, hein, puisque le débat sur les discriminations aujourd'hui est de même nature. Ce qui veut dire que la démocratie, vraisemblablement, n'est pas simplement un complexe procédural, mais repose sur des choix politiques, et peut-être repose sur l'implication de la puissance publique en acte, dont la fonction, légitimée par le vote, serait de mettre en œuvre des politiques, notamment des politiques d'égalisation.
Mais quand je parlais de l'argent, je parlais, vous le faites vous-même d'ailleurs, dans votre livre, je parlais du pouvoir de l'argent sur les élections. Il est hors de question pour
c'est
un parti politique, c'est le coût de la démocratie.
La démocratie a un coût, la démocratie a... C'est une des exigences d'ailleurs de la démocratie. Une démocratie qui n'a pas de coût est une plutocratie. C'est-à-dire une démocratie au sein de laquelle, ou un régime politique au sein de laquelle, seuls ceux qui ont de l'argent peuvent participer au débat politique. Ce qui était vrai d'ailleurs à Athènes, hein, c'était le pouvoir de l'argent qui déterminait l'accès aux fonctions principales. Aujourd'hui, il faut admettre l'idée qu'une démocratie, pour bien fonctionner, doit être soustraite au pouvoir de l'argent. Et à cet égard, me semble-t-il...
Mais en même temps, il en faut.
Il en faut, mais ça dépend d'où il vient et comment il est distribué. Le financement public me paraît être une bonne solution. Lorsqu'on voit aux États-Unis aujourd'hui que c'est le poids financier de chacun des candidats qui apparaît largement déterminant de leur aptitude à être élu ou à ne pas être élu, c'est quand même une petite gêne au regard de la liberté de choix des électeurs. Mmh.
Et ça fait des démocraties formelles, hein, comme c'est le mot qu'employaient les socialistes, qui étaient très hostiles à la démocratie au 19e siècle.
Des
gens comme Proudhon, comme Marx,
qui
considéraient que tant que la démocratie n'était pas affranchie du pouvoir de l'argent, elles étaient purement formelles.
Hein. Totalement.
Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a vu aussi au XXe siècle avec ce qu'on appelait les démocraties populaires, hein, avec des régimes à parti unique et qui n'avaient de démocratique et de populaire que le nom.
Manquer la respiration démocratique.
Autre menace aussi, bien sûr, et vous en parlez aussi, le conformisme et la démagogie que dénonçait déjà Tocqueville au XIXe siècle, et bien après lui, le plus anticonformiste des humoristes français, Pierre Desproges.
Est-il en notre temps rien de plus odieux, de plus désespérant, de plus scandaleux que de ne pas croire en la démocratie? Et pourtant, moi-même, quand on me demande « êtes-vous démocrate ?», je me tape. Un ami royaliste me faisait récemment remarquer que la démocratie était la pire des dictatures parce qu'elle est la dictature exercée par le plus grand nombre sur la minorité. Eh oui, réfléchissez-y une seconde, c'est pas idiot. Pensez-y avant de reprendre inconsidérément la Bastille. Mais convenez avec moi que ce mépris constitutionnel des minorités qui caractérise les régimes démocratiques peut surprendre le penseur humaniste qui sommeille chez tout cochon régicide. La démocratie, c'est aussi la loi du top 50 et des mamas gloussantes reconverties en dondons tisanières. La démocratie, c'est quand Lubitsch, Mozart, René Char, Reiser ou les batailleurs de chez Polak ou n'importe quoi d'autre qu'on puisse soupçonner même de loin d'intelligence est reporté à la minuit pour que la majorité puisse s'émerveiller dès 20h30 en rotant son fromage du soir sur le spectacle irréel d'un béat trentenaire figé dans un sourire définitif de figue éclatée et offrant des automobiles clés en main à des pauvresses arthritiques sans défense et dépourvues de permis de conduire.
Ah, évidemment, c'est provocateur, les propos de Pierre Desproges, Jean-Michel Duconte. Et pourtant, il y a du vrai dans ce qu'il dit.
Je pense qu'il y avait du vrai lorsqu'il le disait. Il reste
pas mal de vrai, hein, je crois.
Je crois que les choses n'ont pas beaucoup changé, notamment en ce qui concerne en particulier la communication audiovisuelle, qui nous renvoie à une image qui est souvent même beaucoup plus inquiétante que celle qu'exprimait Desproges. Incontestablement, il y a des confiscations de la démocratie. Là, il évoquait la confiscation par le conformisme et les médias, c'est-à-dire l'idée... Alors, Tocqueville est un petit peu loin, mais Tocqueville disait que le danger qui guettait la démocratie, c'était le conformisme de l'égalité. Le fait que chacun, finalement, ait envie d'avoir un petit confort personnel et ne souhaite pas mettre en compétition ses compétences. Ça peut être dangereux aussi, puisqu'il faut qu'il y ait des conditions égales pour que la compétition soit une compétition juste. Ce qui aujourd'hui est, me semble-t-il, assez clair et transparent, c'est que, incontestablement, on est en train d'évoluer vers deux types de démocratie qui ne sont ni la démocratie directe ni représentative, mais ce que j'appellerais d'un côté la démocratie d'opinion et de l'autre côté la démocratie d'influence. La démocratie d'opinion qui est une démocratie qui ne s'exprime pas par le vote, mais qui se mesure par les sondages, dont on tâte le pouls un petit peu de temps en temps pour vérifier ce qu'elle ressent. avec le danger d'avoir une politique du chien crevé au fil de l'eau. C'est que chacun va gérer en fonction de ce que lui renvoie l'image que l'on peut avoir de l'opinion. Et la deuxième danger, ou la deuxième dérive, c'est la démocratie d'influence, où finalement chacun a une influence ou une importance en fonction du poids sociologique qui est le sien. Ce qu'on appelle le lobbying. La pratique bruxelloise à cet égard est particulièrement intéressante. Lorsqu'on se promène dans les couloirs du Parlement européen, on a le sentiment qu'il vaut mieux être lobbyiste que parlementaire. C'est sûrement plus efficace.
Est-ce que c'est pas ça qui est à l'origine, au fond, d'une espèce de désaffection très visible, par exemple dans les taux d'abstention élevés qu'on trouve dans toutes les démocraties, je pense aux États-Unis, un peu moins en France, mais enfin ça a été le cas quand même en 2002, vis-à-vis de la démocratie. Est-ce que, de façon générale, la démocratie, c'est une panacée pour tout le monde? Je prends un exemple. J'écoutais hier à la télévision des Irakiens en train de parler, et on se souvient que l'intervention américaine en Irak était faite au nom de la défense de la démocratie. Or, il semble bien, cet Irakien que j'entendais disait, nous la démocratie on s'en fout, ce qu'on veut c'est que les Américains s'en aillent. Au fond, dans certains cas de l'histoire, il faut le rappeler quand même, Jean-Michel Ducomte, des peuples ont pu démocratiquement faire arriver au pouvoir ou maintenir au pouvoir des régimes non démocratiques.
Oui.
On l'a vu en 33 en Allemagne, on l'a vu en 40 en France.
Oui, ça veut dire que, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, la démocratie c'est pas une procédure, la démocratie ce sont aussi des valeurs. Et lorsqu'il y a exténuation des valeurs démocratiques, il est vraisemblable que les procédures démocratiques peuvent amener à des accidents redoutables, dramatiques. En ce qui concerne l'Irak, je crois qu'il y a une évidence, c'est qu'il n'y a pas de démocratie qui ne se fasse en dehors du peuple qui la pratique. Je n'ai jamais vu une démocratie être imposée au bout des canons. Et à cet égard, ce qu'on peut considérer comme l'échec américain en Irak est la preuve manifeste de ce qu'on impose à personne la démocratie, de ce qu'on impose à personne la liberté, chacun la conquiert à la mesure de ses possibilités, à la mesure de ses exigences.
Dans ces conditions, l'avenir de la démocratie ?
C'est, je pense, toujours le meilleur des régimes.
ou le pire, à l'exception de tous les autres.
Ou le pire, à l'exception de tous, mais vraisemblablement le meilleur, à condition d'être en permanence vigilant sur le respect des prérequis que sont l'éducation, la formation, l'intelligence démocratique.
Merci Jean-Michel Ducomte. Je rappelle donc que vous êtes l'auteur d'un petit livre sur la démocratie, très concis, très complet, et qui a été publié dans la collection Les Essentiels des éditions Milan. Vous êtes également l'auteur de Conseils philosophiques aux hommes politiques et à ceux qui les élisent, et de La laïcité, deux livres également publiés chez Milan. Vous avez pu entendre un extrait du film La Révolution française de Robert Henrico, ainsi qu'une archive pâtée de 1945, extrait du journal de votre année distribué par Montparnasse Vidéo. Vous pouvez retrouver ces renseignements ainsi qu'une bibliographie plus complète en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes la minute, ou en consultant le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Pascal Baldassari et Clotilde Thomas, documentation et archivina Virginie Bloch-Lenné et Claire Tesser, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Comilac.
Une émission de Patrice Gélinet.
Demain, dans 2000 ans d'histoire, Salvador Dali, qui est né le 11 mai 1904, il y aura demain très exactement 100 ans.